Radio Prague, les informations.
Asile pour 15 citoyens de l'Ouzbékistan. Première opération de la prostate par un robot en Tchéquie. L'usine automobile Toyota Peugeot Citroën a produit 100 000 voitures en Tchéquie. La République tchèque vient d'accorder le droit d'asile à 15 citoyens de l'Ouzbékistan qui avaient participé en mai dernier à des manifestations contre le régime. Prague a donc répondu à l'appel de l'Office du Haut-Commissaire de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés qui avait octroyé le statut de réfugié à ces personnes. L'hôpital militaire de Prague vient d'effectuer la première opération de la prostate à l'aide d'un robot. Le centre robotique de l'hôpital a été ouvert à la mi-novembre et la première opération a eu lieu la semaine dernière. L'usine automobile Toyota Peugeot Citroën, située à Collines, en Bohême, vient de produire sa 100 millième voiture. Il s'agit d'une Citroën C1 qui est sortie de la ligne de montage ce lundi à 14h. Elle est de couleur jaune. Rappelons que l'usine de Collines produit les petites cylindrées, la Citroën C1, la Toyota Aygo et la Peugeot 107. Pour protester contre la mise à mort des carpes, le plat traditionnel des Tchèques au réveillon de Noël, l'association des défenseurs des animaux d'élevage a organisé une vente de chiens de Noël avec dégustation dans le centre de Prague. Naturellement, la viande ne provenait pas d'un chien. Si cela avait été le cas, ce serait le tollé de protestation selon Michal Kolesage, organisateur de la manifestation, mais dans le cas des carpes tuées et vidées dans la rue, cela ne provoque aucune réaction. Le premier gorille qui est né en captivité en Tchéquie aux eaux de Prague est un mâle. Une information importante, car on ne savait pas pendant longtemps si le petit gorille était un mâle ou une femelle. On lui a donné le nom de Moya, plutôt féminin, et pourtant c'est un mâle, comme l'ont confirmé les tests de l'ADN d'un laboratoire privé. Les douaniers tchèques ont de nouveau réussi une forte prise d'héroïne en Moravie du Sud, cela à l'aide d'un appareil à rayon X qui sert à contrôler le contenu des camions. Le portail à rayon X a découvert 19 kg d'héroïne, un système de contrôle qui semble très opérationnel dans la lutte contre le trafic de la drogue. La Galerie nationale de Prague vient d'acheter deux nouveaux tableaux de Jan Jakub Hartmann, cela grâce à une vente aux enchères organisée par la société Dorotheum à Vienne. Un achat qui a coûté dans les 110 000 euros à la galerie, mais qui enrichit aussi ses collections de deux tableaux d'un grand maître du baroque. La météo nous prévoit un temps d'hiver variable, de la neige, de la pluie, un peu de dégel, des gelées, du verglas. En fin de compte, tout ce que les automobilistes n'aiment pas du tout. Tout cela les attend quand même sur les routes tchèques jusqu'aux fêtes de Noël, avec des températures tournant autour du zéro. Bonne fête au Dagmar, d'après le calendrier tchèque, en ce 20 novembre. C'était les informations par Alain Slimanski. Bonne écoute de la suite du programme de Radio Prague.
Faits et événements en République tchèque.
Alexis Rosenzweig.
Merci d'écouter Radio Prague, la seule radio en français qui vous parle de l'actualité tchèque. L'adoption du budget européen et ses conséquences pour la République tchèque. Les députés tchèques qui se sont prononcés pour le partenariat enregistré destiné aux couples homosexuels. L'ancien président Václav Havel se prononce sur des questions de politique intérieure. Et enfin, la météo, avec de la neige qui est tombée en grande quantité sur le pays et qui a paralysé la circulation dans certaines régions. Cette émission a été préparée par l'ensemble de la rédaction française de Radio Prague, qui vous souhaite une agréable écoute à toutes et à tous. Et vous le savez sans doute, à Bruxelles, les 25 sont donc parvenus à trouver un accord sur le prochain budget à l'arraché dans la nuit de vendredi à samedi. Ce budget pour la période 2007-2013 s'élève à plus de 862 milliards d'euros. Alors qu'est-ce que ça signifie pour la République tchèque? Une réponse avec Jiří Paroubek, le chef du gouvernement.
Celková částka, kterou Česká republika dostává.
La somme totale que la République tchèque devrait recevoir est supérieure à 893 milliards de couronnes. La contribution tchèque au budget européen atteint donc 242 milliards et sur l'ensemble des 7 ans, le pays touchera plus de 651 milliards de couronnes. Une bonne nouvelle pour Prague donc, d'autant que proportionnellement au nombre d'habitants de l'ensemble des pays de l'Union européenne, c'est la République tchèque qui touchera le plus d'argent, environ 330 euros par tête. Alors que le gouvernement était déjà disposé à accepter les propositions inférieures faites par les Britanniques avant le début des négociations, le résultat obtenu n'en est que plus appréciable. Autre motif de satisfaction pour la République tchèque, comme pour tous les pays ex-communistes aujourd'hui membres de l'Union d'ailleurs. Autre motif de satisfaction, donc l'assouplissement des conditions d'utilisation des fonds européens, des fonds que Prague avait eu du mal à toucher depuis son adhésion, et ce notamment à cause des problèmes posés par le principe du cofinancement. Désormais, les projets pourront être financés jusqu'à 85% des fonds structurels, jusqu'ici le maximum était 75%. Ces fonds pourront également être utilisés pour payer la TVA sur ces mêmes projets, et les États membres pourront utiliser sur 4 ans au lieu de 3 ans jusqu'ici prévu. Cerise sur le gâteau enfin, la capitale tchèque se voit attribuer une enveloppe spéciale de 200 millions d'euros et une partie des fonds européens pourra servir à rénover les immeubles HLM en préfabriqués. Bref, la presse tchèque en ce début de semaine salue le rôle tenu par la nouvelle chancelière allemande lors des négociations. Sainte Angela, selon l'hebdomadaire Respect, qui a réussi à amener vers un compromis britannique, polonais et français. Des Français qui, en revanche, aux yeux des commentateurs tchèques, ne ressortent pas grande idée, joute bruxelloise. Pour Luboš Palata notamment, pour ne citer que lui, de Lidové Noviny, Paris est devenu le cauchemar de l'Europe. Et Palata de conclure dans son éditorial que si l'Europe allait dans le sens que le veut la France, alors elle deviendrait une puissance de second rang, ce qu'est la France depuis bien longtemps. La cinquième était la bonne. Après 4 tentatives infructueuses vendredi dernier, les députés tchèques ont donc adopté le projet de loi sur le partenariat enregistré. Un premier pas vers la reconnaissance des couples homosexuels. Réponse avec Anna Kubišta.
Aux Pays-Bas, en Belgique, même dans la très catholique Espagne, les couples homosexuels peuvent se marier et bénéficier des mêmes droits que les couples hétérosexuels. 8 autres pays européens ont également une législation proche de celle que prévoit le projet de loi tchèque, adopté par les députés à 86 voix contre 56 ce vendredi. S'il a fallu soumettre le texte au vote à 5 reprises, c'est bien parce qu'il a dû être remanié après avoir été rejeté par des députés qui l'estimaient trop laxiste. La dernière version finalement adoptée prévoit la possibilité pour les couples homosexuels de faire enregistrer leur union dans les registres d'état civil. Grâce à cette reconnaissance légale, ils pourront désormais bénéficier de droits tels que la possibilité d'obtenir des informations sur la santé de leur partenaire ou le droit d'héritage. Par contre, en cas de décès d'un des deux partenaires, la loi ne prévoit pas de pension de veuvage, par exemple. Sans parler de la question sensible de l'adoption des enfants. Si certains pays européens ont déjà franchi le cap et l'ont légalisé, la loi tchèque ne va pas aussi loin. Pour Kateřina Beňová, porte-parole de la Ligue des gays et lesbiennes, qui s'est exprimée dans le quotidien Lidové Noviny, c'est un premier pas vers la suppression de discrimination. Mais elle ajoute cependant que la loi reste une des plus strictes d'Europe, car elle est le fruit d'un compromis. En outre, rien n'est gagné, puisqu'elle doit encore passer par le Sénat, ainsi qu'être en dernier lieu signée par le président Václav Klaus. Vendredi dernier, à la Chambre des députés, la plupart des votes défavorables à la loi ont été le fait des députés du parti de l'EDS. Or, celui-ci possède la majorité à la Chambre haute. Přemysl Sobotka est président du Sénat tchèque, lui-même issu de ce parti. Écoutons son avis sur le sujet.
Il s'agit d'un débat qui concerne toute la société et qui évolue. Je peux dire que ce ne sera clairement pas une affaire de 80% pour et 20% contre. Je vois plutôt quelque chose comme 55% pour et 45% contre. Moi, personnellement, je n'ai aucun problème par rapport à cela. Et dans notre groupe politique, à l'ODS, je vois un rapport de force 50-50 avec plutôt une petite avance en faveur du oui.
Toujours est-il que si la loi passe les étapes suivantes du processus législatif sans encombre, la République tchèque sera le premier État de l'ex-bloc de l'Est à proposer un tel cadre juridique aux couples homosexuels. Si à côté d'autres législations européennes encore plus tolérantes, la République tchèque peut faire figure un peu palote, rien à voir néanmoins avec sa voisine polonaise où le mois dernier, la ville de Poznan a été marquée par des affrontements d'ultra-catholiques contre un rassemblement d'activistes homosexuels venus défendre leurs droits.
Lorsqu'en février 2003 s'est achevé le dernier mandat présidentiel de Václav Havel, nombreux sont ceux qui s'attendaient à ce qu'il reprenne ses habitudes d'intellectuel indépendant en portant un regard ouvert et décapant sur la scène nationale. Assez longtemps, ils ont pu être déçus. Ce n'est que depuis récemment que l'auteur de « Quelques mots sur la parole » s'exprime plus largement. Samedi, il a accordé un long entretien au quotidien Lidové Noviny pour s'expliquer. Un entretien qu'Alena Gebertova a lu pour vous.
« Depuis le printemps dernier, je ne lis plus les journaux », se confie l'ex-président tchèque, dont les observations prouvent pourtant qu'il suit de près l'actualité politique du pays. S'il refuse de s'exprimer, noblesse oblige, sur les opinions et méthodes de son successeur Václav Klaus, il commente celle du Premier ministre Jiří Paroubek en mettant en relief son orientation pro-européenne. Le fait que son cabinet soit ouvert, dans une certaine mesure, à des professionnels sans parti, représente pour lui un autre très sympathique. De notre côté, Václav Havel voit d'un œil critique le côté technocrate du cabinet Paroubek. On rappellera une récente lettre adressée par Havel au Premier ministre dénonçant l'extension envisagée de l'extraction du lignite dans le nord de la Bohême. Parmi les risques pouvant menacer le système politique en République tchèque, Václav Havel mentionne le caractère trop refermé de celui-ci. Ce fruit des 16 dernières années serait en rapport avec la privatisation et l'interpénétration des nouveaux pouvoirs économiques et politiques. Et les dissidents dans tout cela? Je vois une chose curieuse. Il me semble que les anciens dissidents redeviennent en quelque sorte dissidents. Ils quittent, malgré eux, la vie publique. Couverts de ridicule, c'est aussi leur résistance contre le régime qui est l'objet des risées, dit Václav Havel, et d'ajouter qu'il s'agit là peut-être d'un signe augurant un changement politique assez radical. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il formule une telle idée. Havel affirme plus loin, sans vouloir être concret, que l'impression que donne notre élite politique, de gauche ou de droite à l'étranger, n'est pas forcément la meilleure. Pour lui, c'est la manière de se comporter, de s'exprimer ou de présenter des opinions obscures qui est déplorable. À lui donc, dit-il, d'adoucir pendant les rencontres avec les grands de ce monde, ex ou présent, certains mauvais effets qui peuvent apparaître. Et en conclusion, fidèle à son goût de la transcendance, Václav Havel dit « Les choses, l'univers et l'homme ne peuvent pas exister par elles-mêmes seulement. On ne saurait dire que tout n'est qu'un jeu de hasard. Il y a trop de hasard pour qu'il en soit ainsi. »
Je vous en parlais en titre, la violente tempête de neige qui a sévi sur le pays dans la nuit de vendredi à samedi a fortement perturbé la circulation, fait des morts sur les routes et privé plusieurs régions d'électricité. Yarka Gisubilova pour plus d'informations.
Le week-end écoulé a été le plus tragique sur la route tchèque. Les abondantes chutes de neige qui ont créé par endroits le phénomène dit de l'obscurité blanche ont causé 1890 accidents qui ont fait 13 morts. Le trafic a été totalement paralysé pendant 12 heures sur la principale autoroute du pays, la D1, qui relie Prague à Brno. Des camions bloquaient le trafic dans les deux sens et l'autoroute a été impraticable jusqu'à lundi après minuit. Par crainte que le blocage se prolonge encore, les secouristes étaient prêts à déployer un dispositif de couverture et de boissons chaudes pour approvisionner les chauffeurs des camions. De nombreuses routes du réseau secondaire dans les montagnes, mais aussi dans la région de Bohême centrale, ont été fermées. De très fortes rafales de vent atteignant la puissance d'un ouragan ont occasionné 1700 accidents. Les pompiers ont dû intervenir en raison de toits et de fils de réseaux électriques arrachés, d'automobiles ensevelis sous la neige et pour dégager les arbres tombés sur les routes et les maisons. Des centaines de familles dans le nord de la Moravie ont été coupées de l'électricité pendant la journée de samedi. Le service de secours en montagne et la police recommandent aux chauffeurs de limiter les déplacements dans les régions à risque. Selon Yaroslav Rossa de l'Institut national de la météo, la situation a rappelé la catastrophe qui avait frappé l'année dernière le massif des Hautes Tatras en Slovaquie. Dans le cas, l'Europe centrale se trouvait coincée entre un puissant anticyclone situé au-dessus de l'Atlantique et une dépression en provenance de la région des pays baltes. Pour les jours à venir, la météo restera bien capricieuse, des vents très forts, des chutes de neige, accompagnées d'une remontée des températures dans le courant de la semaine et à nouveau de la neige pour la fête de Noël. Cependant, les moments dramatiques du week-end écoulé ne devraient plus se répéter.
Et c'est ainsi que s'achève déjà notre émission en français sur Radio Prague. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le sport et Guillaume Narguet. Puis après, ce sera la musique. Merci à toutes et à tous de votre attention. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence.
Sport en République tchèque.
Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous. Le hockeyeur Jaromír Jágr a été désigné samedi sportif tchèque de l'année. Nous reviendrons sur les résultats complets de cette prestigieuse enquête. En saut à ski, Jakub Janda a confirmé sa place de leader de la Coupe du Monde en remportant dimanche sur le grand tremplin d'Engelberg en Suisse son 4e concours depuis le début de saison. Le hockey sur glace, c'est bien le sport roi en République tchèque. Samedi soir à Prague, au cours d'une pompeuse cérémonie, il a eu droit à tous les honneurs. Championne du monde à Vienne, en mai dernier, l'équipe nationale a ainsi été élue collectif de l'année, tandis que son leader, Jaromír Jágr, a lui été sacré pour la première fois de sa riche carrière sportive tchèque 2005, à l'issue du vote auquel ont pris part les 165 membres du club des journalistes sportifs. L'ailier des New York Rangers, joueur le mieux payé de toute la ligue nord-américaine NHL, succède donc au palmarès au décathlonien Roman Šeberle. Depuis les États-Unis et avant son match de dimanche soir au Madison Square Garden contre l'Avalanche du Colorado, Jaromír Jágr, qui figure actuellement en tête du classement des meilleurs marqueurs de la ligue avec 23 buts et 28 assistances en 34 matchs, s'est toutefois voulu modeste à l'annonce des résultats de l'enquête.
Le hockey est un sport collectif. Pour gagner, vous avez besoin de toute l'équipe, de vos partenaires, il ne faut pas l'oublier. Mes partenaires ont été excellents tout au long de la saison, et c'est grâce à eux et tous ensemble que nous avons gagné le championnat du monde. Je suis donc satisfait d'avoir remporté cette enquête pour la première fois, mais sans mes partenaires, je n'aurais pas reçu cette récompense personnelle.
En battant 3-0 le Canada en finale du mondial autrichien au printemps dernier, Jaromír Jágr avait complété un palmarès dont très peu de joueurs dans le monde peuvent se targuer. À 32 ans, l'attaquant tchèque qui avait rejoint la NHL à 18 ans, peu de temps après la chute du régime communiste avec le numéro 68 sur le dos, en mémoire de l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes du pacte de Varsovie en août 1968, a en effet remporté pratiquement tout ce qu'un joueur de hockey peut rêver. Outre le titre mondial, donc, il a également été sacré champion olympique à Nagano en 1998, a remporté deux fois la Coupe Stanley en 1991 et 92 avec les Pittsburgh Penguins et a décroché pas moins de 5 fois le trophée de meilleur marqueur de la NHL et une fois celui de joueur le plus utile pour son équipe de toute la ligue. Juste derrière l'une des plus grandes stars du sport tchèque, on retrouve la fondeuse Kateřina Neumannová, dont l'année 2005, en plus de ses très bonnes performances en Coupe du Monde, aura été marquée par le titre de championne du monde sur 10 km style libre. Une deuxième place que la quadruple médaillée olympique des Jeux de Nagano et de Salt Lake City a accueilli avec fair play.
Každý rád vyhrává, ale tady je to trošku něco jiného. Nemohla jsem to úplně ovlivnit a mě v celku těší, když už je toto druhý místo.
Tout le monde aime gagner, mais c'est différent lors d'une telle enquête. Je ne pouvais pas influencer les résultats. Je suis forcément un peu déçu, mais tant qu'à finir deuxième, autant que ce soit avec un tout petit écart, ce qui est le cas, et ça me console un peu. Et puis, il est très difficile de terminer devant les vedettes des sports collectifs. La popularité de ces sports influence les résultats de l'enquête. Je suis quand même contente de mon classement et puis il faut être juste et reconnaître que Jaromír a eu deux saisons exceptionnelles de suite et il était très difficile de le battre.
C'est un autre représentant des sports d'hiver, le sauteur à ski Jakub Janda, actuel leader de la Coupe du Monde et médaillé d'argent et de bronze sur petit et grand tremplin en février dernier au championnat du monde d'Oberstdorf en Allemagne, qui a complété le podium de cette année 2005. Le lauréat de 2004, Roman Šeberle, médaillé d'argent du décathlon des championnats du monde d'Helsinki, apparaît lui cette fois en 4e position. Enfin, les footballeurs Petr Čech et Vladimír Šmicer, ce dernier héros de l'incroyable finale de Ligue des Champions remportée par Liverpool, qui ont tous les deux grandement contribué à la qualification de l'équipe nationale pour la Coupe du Monde 2006, arrivent respectivement en 5e et 6e position. Dans la catégorie des sports collectifs, c'est donc l'équipe de République tchèque de hockey sur glace qui a été déclarée collectif de l'année devant l'équipe de football et l'équipe nationale féminine de basketball, devenue elle championne d'Europe en septembre en Turquie pour la première fois de son histoire. Enfin, c'est le joueur de football Josef Masopust qui avait reçu le ballon d'or France Football 1962, quelques mois après la finale perdue par la Tchécoslovaquie contre le Brésil lors de la Coupe du Monde au Chili, qui a été désigné légende sportive. L'ancien maître à jouer du Dukla de Prague a reçu le trophée des mains d'une autre figure de l'histoire du sport tchèque, Dania Zatopková, la veuve du plus grand des sportifs tchèques de l'histoire, Emil Zatopek. En saut à ski, cela devient désormais une habitude. Jakub Janda poursuit sa formidable série de victoires après s'être imposé dimanche sur le grand tremplin d'Engelberg en Suisse à l'occasion du deuxième concours de la quatrième étape de la Coupe du Monde. La veille, le premier concours avait été annulé en raison de fortes chutes de neige et de rafales de vent. Grâce à deux sauts à 129 et 130 mètres, le Tchèque a devancé l'Allemand Michael Urmann et l'Autrichien Andreas Köffler, confortant ainsi son avance au classement général de la Coupe du Monde. À sa descente du podium, Janda faisait pourtant part de sa surprise.
J'ai pris un peu de retard sur le premier saut, mais je pense que pour le second, la prise d'envol a été plutôt bonne et s'est faite au bon moment. Ce n'était pas évident, car avant le concours, je n'ai pu effectuer aucun saut d'entraînement et les conditions de compétition étaient spéciales. Lors des qualifications, mon saut n'était ni mauvais ni bon, et je ne m'attendais donc vraiment pas à gagner ici.
Avec 552 points obtenus après 8 des 23 épreuves inscrites au programme de la saison 2005-2006, Jakub Janda dispose déjà de 117 points d'avance sur le Finlandais Janne Ahonen, lauréat des deux derniers Globes de Cristal. Plus fort encore, le sauteur originaire de Bohême du Nord s'est imposé lors de chaque étape de Coupe du Monde depuis le début de saison, remportant un concours à Kuusamo en Finlande, à Lillehammer en Norvège, à Aarhus devant son public, puis enfin ce week-end dans les Alpes helvétiques. Jakub Janda fait donc logiquement figure de favori alors que se profile à l'horizon la traditionnelle et prestigieuse tournée des quatre tremplins dont la première épreuve sera disputée à Oberstdorf en Allemagne le 29 décembre. Voilà, c'est la fin de cette rubrique sportive. Merci de votre attention. Tout de suite, place à la musique.
Un peu de musique quand même. Jarka Gisubelova.
Nous nous retrouvons pour le dernier magazine avant Noël et pour nous mettre dans l'ambiance, je vous propose quelques chansons traditionnelles mais modernisées. Le nom de la première chanson que je vous propose d'écouter est bien reconnaissable d'après le tintement des grelots. Les grelots, qui vous a donné la voix, le guignol ou le Père Noël, chante-t-on dans cette vieille chanson de Noël, évoquant le silence solennel de la Sainte Nuit que seul le tintement cristallin des grelots trouble. Noël arrive, chantons les amis. Une année s'est vite écoulée, Noël arrive joyeux. Chantent les enfants dans cette chanson qui se poursuit avec des paroles légèrement ironiques, prenant pour cible les différents membres de la famille qui insistent avec obstination sur l'observation des coutumes considérées comme inséparables de Noël, dont celle d'acheter une carpe vivante. Le grand-père a beaucoup de peine à tuer la carpe conservée dans la baignoire jusqu'au réveillon de Noël et que personne n'a envie par pitié de manger. Écoutons-la. Le jour du Seigneur est le titre de la chanson suivante dédiée au principal jour de fête dans notre pays, le 24 décembre. Louons ce jour qui est le nôtre, beau et bleu, qui nous sera donné par le Seigneur. Le Seigneur nous a donné le pain, le sel, et donnera de l'eau à nos enfants. Oh, le jour du Seigneur, comme il est beau, aimons-le ce jour du Seigneur.
Boží den,
o Boží den,
ten den je náš, o chválit máš.
C'est tout dans cette émission, merci de votre fidélité, au revoir et à bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 UTC on 11640 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 UTC on 21745 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 21745 kHz and at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 21745 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 on 9885 or 11600 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours on 9430 kHz. Listeners in Australia can listen at 1800 hours on 9400 kHz and at 2100 hours on 9430 kHz. And in North America, you can hear Radio Prague.